enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ce soir, nous passons aux actes. Amen. Nous sommes donc dans une série qui va nous prendre le temps que ça nous prendra. Mais nous voulons chaque soir, chaque dimanche soir, sauf le premier dimanche du mois, on va se donner un break. Mais nous voulons chaque dimanche soir être dans le livre des actes. Pourquoi ? Pourquoi s'attarder sur le livre des actes des apôtres ? Parce que le livre des actes des apôtres, c'est l'histoire de la première église. L'histoire des premières campagnes d'évangélisation. L'histoire de la première fois que les disciples se sont retrouvés seuls alors que Jésus est remonté au ciel. Et l'histoire de choses extraordinaires et magnifiques que la première église va faire à Jérusalem, mais aussi à Antioche et dans tout le bassin méditerranéen. Et si nous, en tant qu'église de Pentecôte de Drummondville, nous voulons regarder l'histoire de l'église à partir du livre des Actes des Apôtres, c'est parce que nous croyons que ce qui est écrit dans ce livre, que ce qui s'est produit pour ces apôtres et pour ces premiers chrétiens, c'est vrai pour nous aujourd'hui encore. Et que ce qui s'est passé en ces temps-là peut se produire aujourd'hui encore. Amen. Que des miracles peuvent avoir lieu aujourd'hui encore. Et nous sommes plusieurs à rendre témoignage, oui, de dire « c'est vrai, ça marche ». Nous l'avons expérimenté nous-mêmes. Nous voyons Dieu à l'œuvre et nous voulons étudier le livre des Actes des Apôtres ensemble afin de passer aux actes, afin de mettre en pratique. Donc, ce n'est pas là une étude biblique traditionnelle, ce n'est pas là une étude approfondie du livre des Actes des Apôtres d'une manière très exégétique ou théologique ou compliquée. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de passer à l'acte. Le but, c'est de rentrer dans quelque chose de très concret. La semaine passée, nous avons vu les 11 premiers versets du livre des Actes des Apôtres. Vous vous en souvenez ? Nous avons parlé donc de ce commencement ou la relation qu'il y a entre les Actes des Apôtres et le premier livre de Luc, c'est-à-dire l'Évangile. Dans l'Évangile de Luc, son premier ouvrage, parce que c'est Luc qui a écrit les Actes des Apôtres, dans son premier ouvrage, Luc présente la vie de Jésus. Et il nous dit dans les Actes des Apôtres, maintenant voilà la suite. Donc il y a une suite à l'Évangile. Et nous qui croyons, nous qui sommes chrétiens, nous qui avons accepté l'Évangile, la bonne nouvelle dans notre vie, il y a une suite. Vous avez reçu Jésus dans votre vie, alléluia. Mais il faut passer aux actes maintenant. Restez pas sur le premier livre seulement en disant « j'ai reçu la bonne nouvelle, j'ai accepté Jésus dans ma vie, je suis un chrétien, j'aime la bonne nouvelle que Jésus est mort pour mes péchés ». Mais maintenant, il y a le deuxième livre, deuxième tome, deuxième ouvrage. Passons aux actes. Nous avons vu que ces deux livres étaient intimement liés et que bien souvent, il y a des choses qui étaient annoncées dans l'Évangile qui sera repris dans le livre des actes et qui montrera d'une manière concrète comment ça marche. Quand Jésus dit « voilà ce qui va se passer en ce qui vous concerne », on dit « oui, mais concrètement, ça se passe comment ?» Le livre des actes des apôtres est là pour nous donner un témoignage de ce que concrètement l'Église doit être. Nous avons parlé aussi dimanche passé de ce retour de Jésus dans son ciel de gloire alors qu'il est enlevé au ciel. Ça n'a rien à voir avec le 15 août. Il y en a qui se disent, c'est quoi le 15 août ? Le 15 août, c'est l'Assomption. Mais nous parlons de l'Ascension. Il y a une différence entre l'Assomption qui n'est nulle part dans la Bible et qui d'ailleurs, juste une petite parenthèse, n'est une doctrine officielle de l'Église catholique que depuis 1950 et quelques, donc c'est assez neuf, c'est assez nouveau, ça veut dire qu'il y a 200 ans, 300 ans, ben, ce n'était pas une doctrine officielle. Mais enfin bref, nous, on parle de l'Ascension. Quand Jésus est remonté dans son ciel de gloire et que là, les disciples avaient les yeux vers le ciel et là, en admiration et puis même en louange, en adoration devant ce Jésus qu'ils ont reconnu comme leur Messie, leur Sauveur. Et voilà que des anges leur ont dit « Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus reviendra de la même manière. » Et nous nous souvenons que c'est important, dès le départ du livre des Actes des Apôtres, de nous souvenir que Jésus revient bientôt. Parce que si justement nous passons à l'acte et nous voulons rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, c'est parce que nous savons que Jésus revient bientôt et qu'il ne faut pas chômer, qu'il n'y a pas de temps à perdre. Quand Jésus reviendra prendre son Église, lorsque Jésus reviendra chercher les siens, est-ce que nous serons prêts? Et certains diront, oui, je suis prêt avec l'Évangile, je suis prêt avec la bonne nouvelle que j'ai reçue dans ma vie. Mais est-ce que tu es prêt avec le livre des Actes des Apôtres? Quand Jésus va dire, bon, voyons voir, tu as fait quoi de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie chrétienne? Quel acte as-tu fait? Quelle chose as-tu construite? Est-ce que tu as construit avec de l'or, avec de l'argent et avec des pierres précieuses? Ou alors est-ce qu'il ne reste plus rien? Comme si tout avait été consumé au travers du feu. Nous avons une mission à accomplir. Le Seigneur Jésus nous a donné des ordres et nous a dit « voilà ce qu'il faut faire ». Et il revient bientôt. Et nous devrions y réfléchir avec crainte et tremblement, si je peux dire les choses ainsi, afin que le Seigneur ne nous trouve pas comme des serviteurs paresseux et méchants, mais qu'il puisse nous dire « c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu n'es pas resté endormi, tu n'es pas resté sans rien faire, mais tu es passé aux actes ». On est donc maintenant au verset 12, c'est ça? Alors allons-y, Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 12. Voilà ce qui est écrit. Ah, donc après que Jésus soit remonté au ciel, c'était à Béthanie, il nous les a dit, alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Dans cette première section, il nous est donc dit qu'ils retournèrent à Jérusalem. Pourquoi donc aller à Jérusalem? Pourquoi ne pas retourner chacun chez soi? On sait que Pierre, Jacques, Jean, tout cela sont issus de Capernaum. C'est là leur maison. Mais non, ils retournent à Jérusalem. Alors que Jésus est remonté au ciel, pour eux, l'histoire n'est pas finie. Ils disent pas, bon, ben, ça y est, c'est fini, maintenant, bon, voilà, Jésus est remonté au ciel, ça s'arrête là. C'est la fin du chemin, non, ils retournent à Jérusalem parce que Jésus avait dit, attendez à Jérusalem et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc on voit on est toujours donc dans l'introduction, dans le démarrage du livre des Actes des Apôtres, que tout commence avec le souvenir de ce que Jésus a dit. De ce que Jésus a dit dans Luc 24, lorsqu'il est apparu aux 11, et qu'il leur a dit, je vous enverrai, j'envoie la promesse du Père, l'accomplissement, mais attendez à Jérusalem. Attendez à Jérusalem selon le début du livre des Actes, eh bien alors que Jésus est remonté au ciel, ils vont donc à Jérusalem. Et ils vont dans une chambre haute, un lieu de prière où ils se tenaient ordinaire. Et là, dans ce lieu de prière, il y avait donc ceux qui sont communément appelés à la fin de l'évangile de Luc, les 11. Mais il y a aussi les femmes. C'est qui ça, les femmes? Il est dit, voilà, il y a tout le monde et les femmes. C'est qui ces femmes-là? Ces femmes, apparemment, on ne les connaît pas. Du moins là, quand on lit le livre des Actes des Apôtres, on dit, c'est qui ces femmes? Mais quand on lit Luc 24, et quand on lit la fin de l'Évangile, on voit ces femmes. Ces femmes qui étaient l'âme lorsqu'on a enlevé le corps de Jésus à la croix et qui ont bien observé comment il a été mis au tombeau. Ces femmes qui ce matin-là sont allées au tombeau pour embaumer son corps, qui ont trouvé la pierre ouverte et qui ont vu une vision d'ange leur dire « Il est vivant, Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ces femmes qui sont allées elles-mêmes dire aux 11, il est vivant. Nous sommes allés au tombeau, le corps de Jésus n'y est plus, il est vivant. Des anges nous ont parlé et nous ont dit, souvenez-vous de ce qu'il vous disait lorsqu'il était encore en Galilée, il est vivant. Et les 11 ont dit, alléluia. Et les 11 ont dit, c'est encore des femmes, paroles de femmes, sornettes, fables, quand même, franchement. C'est ces femmes-là qui ont été les premiers témoins de la résurrection et qui sont même allés rendre témoignage aux 11. Les 11 qui ont vécu plus de 3 ans avec Jésus, qui ont vu des miracles, qui ont vu des prodiges. Les 11 qui ont entendu Jésus lui-même dire « Il faut que j'aille à Jérusalem, que je sois crucifié, mis à mort et je ressusciterai le 3e jour. » Jésus l'avait dit. Et pourtant, quand les femmes viennent dire aux 11, il est vivant, ils ne le croient pas. Qu'avaient dit les anges aux femmes? Souvenez-vous de ce qu'il vous avait dit lorsqu'il était encore en Galilée, qu'il devait souffrir et qu'il ressusciterait le 3e jour. Les 11 ne se sont pas souvenus de ce que Jésus avait dit. Et même quand les femmes sont venues leur rappeler ces choses, ils ne s'en souviennent pas. Plus loin, dans le récit de Luc 24, il nous est dit sur ce chemin d'Emmaüs, eh bien, il y avait 2 hommes qui marchaient tristement. Et c'est Jésus ressuscité qui vient à leur rencontre, mais leurs yeux sont empêchés de le reconnaître, ils ne le reconnaissent pas. Et Jésus leur dit, mais de quoi parlez-vous? Et ces 2 hommes vont dire, mais quoi, tu es le seul qui habite Jérusalem et qui ne sache pas ce qui se passe? Jésus, celui qui était puissant en parole et en œuvre, eh bien, il est... D'ailleurs, puissant en parole et en œuvre, ça fait penser à l'Évangile, qui est la bonne nouvelle, la parole, mais en œuvre aussi, les actes des apôtres. Je ferme ma parenthèse. Puissant en parole et en œuvre, mais maintenant il est mort et c'est fini. Et Jésus va refaire toute une leçon en disant, en partant de toutes les Écritures, de la loi et des prophètes, et parler de tout ce qui le concerne. À tel point que les 2 disciples, Cléopas et son compagnon, pourront dire plus tard, « Mais notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous ouvrait les Écritures, lorsqu'il nous expliquait les Écritures ?» Ces 2 hommes n'avaient pas cru ce que les femmes avaient raconté comme témoignage, mais là, c'est Jésus lui-même qui leur apparaît, « Il est vivant. » Ils vont donc dire aux 11, « Nous l'avons vu, c'est vrai, il est vivant. » Et les 11 vont dire, « C'est vrai, il est apparu aussi à Pierre. » Et alors que tout le monde dit, « C'est formidable, Jésus est vivant. » Voilà que Jésus lui-même apparaît au milieu des 11. Et là, ils se disent tous, « Hallelujah !» Non. Qu'est-ce qu'ils disent? « C'est un fantôme. » C'est pas lui, c'est son fantôme, c'est son esprit. Et ils ont peur et ils craignent. Voilà plusieurs personnes qui viennent rendre témoignage de la résurrection. Jésus lui-même avait annoncé ces choses. Et les 11, quand Jésus leur apparaît vivant, ont du mal à croire. À tel point que Jésus doit leur dire, c'est moi, regardez, je suis vivant. Est-ce qu'un fantôme a un corps comme j'en ai un? Donnez-moi à manger. Ils ont pris un morceau de poisson grillé avec du miel, ils lui ont donné, il a mangé devant eux. Et Jésus leur a même dit, touchez-moi, voyez, je suis un corps, je suis réellement ressuscité. C'est pas une vision, c'est pas là un fantôme, c'est pas un esprit, c'est moi, ressuscité. Et là, ils vont croire, enfin. Et je me dis quand même, les 11, quelle bande d'incrédules. Non? Et quelque part, ça peut nous déculpabiliser des fois, non? Si eux, ils n'ont pas cru, alors moi, c'est peut-être normal si des fois j'ai du mal à croire, non? Eux, c'était les 11 qui étaient avec Jésus. Ils en ont vu plus que vous, hein? Ils étaient là quand Jésus a dit à Lazare, sors du tombeau. Ils étaient là quand les aveugles ont retrouvé la vue. Ils étaient là quand les lépreux ont été purifiés. Ils étaient là quand la fille de Jaïrus a été ressuscitée. Ils étaient là quand le fils de la veuve de Naïn a été ressuscité. Ils étaient là quand ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Ils ont vu toutes sortes de prodiges, la multiplication des pains et toutes sortes d'affaires. Et pourtant, ils ont du mal à croire à la résurrection. Mais quand Jésus leur parle, quand Jésus les rencontre, tout devient différent. Et de la même manière, le livre des Actes commence avec cette histoire. Quand on rencontre Jésus, tout est différent. Quand ils ont vu Jésus dans sa gloire remonter au ciel, tout était différent. Et maintenant, il n'y a aucun doute dans leur cœur. Il n'y a plus de signe d'incrédulité. Il n'y a plus de doute en disant, est-ce que c'est vrai, là, la promesse de Jésus par rapport au Saint-Esprit? Bon, est-ce qu'on doit vraiment attendre qu'il se passe quelque chose? Ça ne fait aucun doute. Parce qu'ils ont eu une rencontre intime, individuelle et particulière avec Jésus ressuscité. Et on verra tout au long du livre des Actes des Apôtres que la vie chrétienne, que la foi, c'est une question de rencontre avec Jésus ressuscité. Paul va rencontrer Jésus ressuscité. Que c'est une histoire de relation avec Jésus. Et il doit nous parler et on doit ouvrir notre cœur. Il doit rentrer dans notre cœur. On doit lui ouvrir la porte dans notre maison et tout change. Mais ça peut pas être une adhésion intellectuelle ou religieuse, ou disant, bon, on change de religion, ou on fait telle affaire. Non, c'est une rencontre avec Jésus ressuscité. Mais cette rencontre avec Jésus ressuscité est quelque chose de puissant, et quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui va amener toute la gloire de Dieu dans notre vie. Si c'est Jésus qui vient dans notre maison, c'est toute la gloire de Dieu qui vient dans notre maison. Si c'est Jésus qui marche à côté de nous, c'est toute la puissance de Dieu qui est avec nous. Si c'est Jésus qui parle à notre cœur, c'est toute la révélation de la parole de Dieu qui se manifeste à nous. Et quel privilège nous avons. Alors, pour revenir au passage que nous sommes en train de voir, il nous est dit que les 12 sont retournés à Jérusalem parce que maintenant ils savent que ce que Jésus a dit, c'est vrai. Et ils sont avec ces femmes qui avaient été identifiées dans Luc 24, les femmes qui ont cru en premier et elles croient toujours. Elles ne se sont pas laissées décourager par la bande des 11 en disant « Bon, ben, puisque vous ne croyez pas, nous, on va ouvrir notre église. Nous, on va faire nos affaires. Nous, on va se réunir à part. Nous, on l'a l'affaire. Nous, on croit que Jésus est ressuscité. » Elles restent. Et elles sont restées, elles ont patienté quelque temps. Mais là, maintenant, elles sont toujours avec les disciples. J'aimerais souligner aussi, parce que c'est un point important, que Marie, mère de Jésus, est avec eux. Et Marie, mère de Jésus, est présentée avec eux. Non pas comme celle qui dirige les événements, non pas comme celle qui commande, qui contrôle, ou comme le personnage le plus important de la bande, comme quelqu'un d'honorable, certes, puisque c'est la mère de Jésus, mais quelqu'un qui se soumet à l'autorité des apôtres, parce qu'on le voit dans la suite, qu'ils étaient ensemble, et que ce sont les apôtres, les 11, eh bien, qui dirigent les événements, et que Marie, là, s'est soumise aux 11, et non pas les 11 à Marie. Il faut réfléchir là-dessus, parce que des fois, certains pensent le contraire. Des fois, certains pensent que Marie est celle qui est digne de louange, d'adoration, et non, non. Marie est une femme remarquable qui a eu un rôle formidable dans le plan de salut, c'est vrai, mais Marie est une femme qui, elle-même, avait pu parler de Jésus comme son sauveur. Une femme qui a reconnu qu'elle avait besoin d'un sauveur. Une femme qui reconnaît qu'elle a besoin de la communion fraternelle, qu'elle a besoin d'être enseignée, qu'elle a besoin d'être avec les apôtres et qu'elle a besoin d'être là ensemble dans la prière pour recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que Marie sera là le jour de la Pentecôte pour être remplie du Saint-Esprit? Elle a besoin d'être remplie du Saint-Esprit comme tout à chacun. Si on continue la suite du récit, on arrive au chapitre 15. Il nous est dit, « En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, et le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. » Et j'ai déjà fait plusieurs remarques là-dessus, mais je le rappelle. Quand on réalise ce qui est écrit dans l'Épître aux Corinthiens, où l'apôtre Paul parle de la résurrection de Jésus, et il nous dit que Jésus s'est fait voir à 500 personnes à la fois, avant de remonter au ciel. Ils étaient 500 lorsque Jésus s'est manifesté à eux. Ils étaient 500 à voir de leurs yeux vus. pas à entendre parler, à voir Jésus ressuscité, à le reconnaître. Et même au début du livre des Actes des Apôtres, on a lu la dernière fois que pendant 40 jours, Jésus leur a donné la preuve de sa résurrection. Eh bien là, 500 ont vu Jésus en même temps ensemble. Et 120 sont dans la chambre haute. Il en manque un petit bout là. Où sont passés les autres? Tu as une idée? Vas-y. Les prophètes, ils ont vu quoi? Eh bien, il y avait 500 personnes. Alors, est-ce qu'il y avait des prophètes dans le lot? Peut-être pas, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, mais peut-être. Mais dans ces 500, il y en a qui vont devenir prophètes, ça c'est sûr. Et dans ces 500, il y a eu toutes sortes de gens. Des gens qui étaient, qui avaient des grandes situations. Il y avait peut-être des médecins comme Luc, des gens qui étaient riches comme Joseph d'Arimathée, qui suivaient Jésus ou d'autres encore. Puis il y avait des gens de simples conditions, des pauvres, des riches, toutes sortes de situations. Mais ces gens-là étaient là. Ils ont vu Jésus. Mais il y en a que 120 qui sont restés dans la chambre haute. Et dans ce même état d'esprit, on continue à lire au verset 16, où là il est question d'un autre. Pierre dira, « Homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous. Il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose était si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue « Akeldama », c'est-à-dire « champ du sang ». Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. Et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias. Puis, ils firent cette prière. « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'ils aient part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. » Pierre va se lever en ce temps-là et va dire, « Hé, on était 12 au départ. Jésus en avait choisi 12, mais maintenant, ils sont 11. Judas n'est plus là. Il est mort. Il s'est pendu. Il s'est suicidé. Judas est celui qui avait trahi, celui qui avait amené les méchants à venir chercher Jésus dans ce jardin de Gethsémané pour le conduire à la mort. » Et Pierre se lève en ce temps-là en disant « Il fallait que s'accomplisse la prophétie concernant Judas. » Dites-moi, est-ce que Judas a eu le choix de trahir ou non? Est-ce que quelqu'un dira « Mais non, c'était écrit. Judas était pogné par la prophétie. Il ne pouvait pas faire autrement que de trahir puisque c'était écrit. » Non, la prophétie, c'est Dieu qui connaît les choses à l'avance. Mais en ce qui concerne le choix de chacun, Dieu ne choisit pas à notre place. Dieu sait à l'avance quel choix tu vas faire, mais Dieu ne t'impose pas de choix. En ce qui concerne Judas, Dieu n'a jamais obligé Judas à trahir. Dieu n'a jamais dit, il en faut un, on va en choisir un, tiens, ce sera Judas que l'on va livrer à Satan, afin qu'il soit le traître. Non, Judas avait sa part. Judas a été choisi parmi les 12. Jésus avait prié avant d'en sélectionner 12. Vous avez noté que quand il faut remplacer Judas, Pierre va dire, nommez parmi nous quelqu'un qui était là dès le départ, dès le baptême de Jean, et qui était là jusqu'à la fin. Ils étaient donc plus de 12 à avoir suivi Jésus tout le temps, depuis le baptême de Jean jusqu'à sa résurrection et jusqu'au jour de son ascension. En tout cas, Matthias et Barsabbas étaient là au jour du baptême de Jésus, à part Jean, et ils étaient là pendant tout le cheminement de Jésus sur les terres de Palestine et de Galilée. Ils étaient là, et d'autres encore étaient là. Mais il faut maintenant quelqu'un pour remplacer Judas, qui pourtant, et Pierre le souligne, a eu part au ministère de la même manière qu'eux. Judas avait sa place. Judas avait son rôle. Judas avait sa vocation. Il était appelé apôtre, envoyé. Judas a fait partie de ceux qui ont été envoyés deux à deux avec le pouvoir de chasser les démons. Judas a prêché la bonne nouvelle du royaume de Dieu, a parlé de la repentance et a guéri des malades, a chassé des démons, a fait des choses merveilleuses avec la puissance que Dieu avait donnée aux siens. Mais Judas est celui qui va préférer l'argent à son maître. Il était avare, il aimait l'argent, il volait même dans la caisse et pour l'appât du gain, va vendre Jésus pour 30 pièces d'argent. Et Paul va dire, comme cela était écrit dans les psaumes, que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. Et ça, ça fait référence au psaume 69, et il dit aussi qu'un autre prenne sa charge. Et moi, je suis là des fois, quand on lit vite comme ça, on dit waouh, juste une petite phrase comme ça, elle est prise dans un psaume, et il dit ça, c'est Judas. Vous auriez fait pareil, vous, hein? Si vous aviez lu le psaume 109, verset 8, qu'un autre prenne sa charge, je dis c'est évident, c'est clair, ça peut être que Judas. Non? Pierre, là, pour lui, c'est clair. Il connaît le livre des psaumes et il dit qu'un autre prenne sa charge. Pourquoi? Parce que le psaume 109 a toute une histoire. Et le psaume 109, ce n'est pas qu'un verset, qu'un autre prenne sa charge. C'est quoi le psaume 109? Bon, alors, on va voir. Allez, vous avez le livre des psaumes aussi, vous êtes venu qu'avec le livre des actes ce soir. Si vous avez le livre des psaumes, on peut aller au psaume 109. Voir un petit peu ce que ça dit dans ce psaume. Puisque pour Pierre, ça semble évident que la situation de ce psaume correspond à Judas. Psaume 109. Donc c'est un cantique au chef des chantres de David. Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux. Ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour de l'amour. Est-ce que ce n'est pas ce que Judas va faire ? Rendre le mal pour le bien, et de la haine pour de l'amour. Et il est dit au verset 6, « Place-le sous l'autorité d'un méchant, et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable, et que sa prière passe pour un péché. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. » Que ces jours soient peu nombreux, et ça a été le cas pour Judas, qui est mort au moment où Pierre parle. Et il est question ici de déclaration de culpabilité. Et au travers de cette référence que Pierre fait au psaume 109, il est en train de dire, c'est évident pour nous tous, que Judas a été reconnu coupable. Et que là, il a été placé sous un jugement et qu'il a été coupable. Et à cause de cela, maintenant qu'un autre prenne sa charge. Parce que pour lui, c'est fini. Il s'est suicidé. Il est mort. Notez bien que ce n'est pas Dieu qui a tué Judas. Est-ce que Judas aurait pu avoir l'occasion de la repentance? Ça, c'est toute une question. Est-ce que Judas aurait pu revenir en arrière? Certains vont dire, oui, mais il est écrit que Satan est rentré dans Judas. D'accord. Dites-moi, Pierre, comment ça s'est passé avec lui? Pierre, un jour, dit à Jésus une parole, et Jésus dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan !» Hé, c'est Pierre, c'est pas Satan. Et Jésus dit, « Arrière de moi, Satan !» Les paroles que tu dis, Pierre, ça vient de Satan, là. Peut-être pas, mais en tout cas, il avait influencé Pierre avec des mauvais propos. Et Pierre, est-ce que c'est pas lui qui a trahi Jésus aussi? Est-ce que Pierre, à plusieurs reprises, n'a pas dit « Je ne le connais pas » et même avec imprécation, en jurant ses grands dieux et même en jurant avec une sorte de sorcellerie ou de magie, c'est ça l'imprécation, en jurant avec une formule magique ou je ne sais pas quoi, il faudrait lire Harry Potter pour mieux comprendre, ça ne m'intéresse pas trop, mais avec imprécation, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement en jurant sur la tête de sa mère, là, c'est qu'il va faire appel aux esprits et à des choses comme ça pour dire, non, non, qu'il m'arrive un malheur, que la puissance du ciel tombe sur moi, si ce n'est pas vrai. C'est des choses comme ça qu'il a pu dire. C'est grave. Non? Et Pierre, faudrait l'éliminer. Non? Pourtant, il va trouver grâce. Et Jésus va le pardonner. Et Jésus va le ramener par la repentance. Et il l'avait déjà annoncé à Pierre. Quand tu seras revenu. Littéralement, quand tu te seras repenti. Quand tu seras revenu, tu conduiras tes frères. Et c'est ce qui se passe maintenant. Pierre est celui qui conduit le groupe. Et c'est même à Pierre que Jésus est apparu le premier. Non? Luc 24, souvenez-vous. Vous allez dire, mais non, c'est sur ces deux disciples à d'Emmaüs que Jésus est apparu le premier. Qu'est-ce qui se passe quand les deux disciples d'Emmaüs arrivent à Jérusalem? Ils disent, hé, on a vu Jésus. Il est déjà apparu à Pierre. Non? Il se passait juste avant eux, là. Et Pierre a eu toute une restauration. Judas, lui, n'a pas eu cette restauration. Parce qu'il n'est pas allé la chercher. Pierre a pleuré amèrement lorsqu'il s'est détourné. Judas, lui, est allé suicider. Au lieu d'aller vers Dieu, d'aller vers la vie, il s'est tourné vers la mort. À ce qu'il avait fait, c'était grave, ça c'est officiel. Mais il avait été appelé. Dieu lui avait donné une opportunité extraordinaire. Même à un moment, si vous vous souvenez bien, Jésus avait pu prophétiser en parlant aux 12, et Judas était dans les 12, en disant « Il y a dans le ciel 12 trônes pour chacun d'entre vous. Et vous régnerez avec moi. » Et Jésus ne dit pas, « Judas, il y a dans le ciel 12 trônes, mais il y en a un de vous qui ne régnera pas. » Oui, Jésus le sait. Et il va le savoir. À quel moment ça lui a été révélé? En tout cas, à un moment, Jésus sait que Judas va le trahir. Mais quand Judas a été appelé, il n'a pas été appelé à trahir. Il a été appelé à régner. Il a été appelé au ministère. Il a été appelé à servir. Il a été appelé à apôtre, mais Judas a pris une autre voie. Qu'un autre prenne sa place. Judas, qui était compté parmi nous, dit Pierre, il avait part au même ministère. Et le sort de Judas devrait nous faire réfléchir. Un autre va prendre la place de Judas. Moi, j'aimerais pas qu'un autre prenne ma place. Non? Le Seigneur nous dit qu'il nous a préparé au ciel des demeures, qu'il nous a préparé une place au ciel. Mais j'aimerais pas que quelqu'un d'autre prenne cette place-là. C'est la mienne. Non? Non, non. Prenez pas la mienne, vous en avez une. J'espère. Mais si quelqu'un d'autre prend la place, c'est parce qu'on a lâché, parce qu'on a abandonné, c'est le mot qui va être utilisé ici. Il dit, il était compté, il n'avait pas au même ministère. Eh bien, il faut, je cherche le mot, Judas, qui était le guide, il était compté parmi nous, il avait le même ministère. Alors, je cherche le mot où il est dit que Judas a lâché et il a laissé tomber. Bon, je vais vous retrouver ça. Voilà, au verset 25, je savais bien que je l'avais lu quand même, il n'y a personne pour m'aider là. Verset 25, « Afin qu'ils aient part à ce ministère et cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Judas a abandonné son ministère et son apostolat, sa fonction d'apôtre. Il l'a abandonné. Mes amis, jamais Dieu nous enlèvera ce qu'il nous a donné. Jamais Dieu ne se repentira de son appel. Mais que personne au milieu de nous n'abandonne. Et si vous étiez là ce matin, c'est ce qu'on disait. Que personne ne lâche, que personne ne quitte, que personne n'abandonne. À tel point qu'un autre prenne notre place. Est-ce que ça ne vous rappelle pas l'histoire de Jacob et d'Ésaü? Qui avait le droit d'aînesse dans cette famille? Ésaü. Ésaü était le fils aîné. C'est lui qui avait le droit d'aînesse. C'est lui qui devait avoir une bénédiction particulière. C'est lui. Mais un jour, il rentre de la chasse, il est fatigué, il a faim et il sent que une bonne odeur dans la cuisine, ça sent bon, c'est quoi? Des fèves au lard, c'est formidable. Alors, il demande à des lentilles, c'est presque des fèves, non, bon, des lentilles, un roux de lentilles, et il demande à son frère, donne-moi. Et son frère dit, je te donne pas comme ça. Il dit, je suis prêt à tout donner. Je te donne mon droit d'aînesse, ma priorité, ma bénédiction. Il l'a donné, il l'a vendu pour un plat de lentilles. Franchement, vendre son héritage pour un plat de lentilles, soit il avait faim, mais même s'il avait faim, quand même. Ça, pour moi, ça veut dire que son héritage, à ses yeux, ça ne valait pas grand-chose. Parce que si ça valait plus, jamais il aurait fait ça. Non? Vous savez, moi, si j'ai faim, je ne vendrai pas ma femme, pour, même si j'ai très faim. Non? Vous seriez capable de faire ça, vous? Mais lui, son héritage, son droit d'aînesse, ça n'a pas assez de valeur. Il est prêt à le vendre. Il le laisse. Après, il va en vouloir à son frère d'avoir reçu cet héritage, ce droit d'aînesse. Mais c'est lui-même qui l'a abandonné. Judas a abandonné et un autre va prendre sa place. Ésaü a abandonné la bénédiction qu'il aurait dû avoir et c'est son frère qui va prendre sa place. De la même manière, n'abandonnons pas ce que Dieu nous a donné parce que quelqu'un d'autre prendra votre place. Si tu es appelé à faire un ministère dans l'Église, si tu es appelé à faire quelque chose dans l'Église, si le Seigneur a mis quelque chose sur ton cœur et que tu ne le fais pas et que tu abandonnes ce que Dieu t'a demandé, ce que Dieu a mis sur ton cœur, ne sois pas surpris et ne sois pas jaloux si un autre prend ta place. Tu n'avais qu'à le faire, non? Il y a une époque... vous savez, des fois, on reproche, on dit « Ah, c'est pas normal que ce soit telle personne qui fasse ça. » Peut-être. Peut-être c'est pas normal. Je vais prendre peut-être des sujets précis, oula, même si c'est des sujets dangereux. Certains vont dire « Mais est-ce que c'est bien que les femmes prêchent ?» Oula, on commence là dans des sujets délicats. Hein. Oups. Reprenons l'histoire. Première fois que les femmes ont prêché, enfin en Europe, c'était pendant la guerre. Il n'y avait pas d'hommes. Et les hommes qui étaient là, ben, prêchaient pas. Les femmes sont mises à prêcher. Des hommes, bon, les hommes, il y en avait moins parce que la plupart étaient à la guerre, il n'en restait qu'une poignée. Ils n'ont pas pris leur place. Ou alors, il n'y avait personne pour prendre la place. Alors, les femmes ont pris la place. Est-ce que c'est correct? Non? C'est mieux que les pierres qui... Des fois, on dit, mais c'est pas normal que ce soit des jeunes qui fassent ça. C'est vrai. Des fois, c'est pas normal que ce soit certains jeunes qui aient certaines places. Mais réfléchissons. Qui devrait le faire? Ah ben non, mais il faut que ce soit des anciens. Il faut que ce soit des gens établis dans l'Église. Il faut que ce soit des gens qui aient reçu de Dieu, des gens qui ont une expérience avec Dieu. Mais si ces gens-là prennent pas leur place, qu'un autre prenne la charge, puisqu'ils ont abandonné ce que Dieu leur avait confié. Vous me suivez? C'est facile d'accuser les autres en disant « c'est pas normal que, c'est pas normal que tu fasses pas ce à quoi tu as été appelé. C'est pas normal que tu abandonnes ton ministère. C'est pas normal que tu ne... » Bon, on est en train de dire « passer aux actes hein ». Alors là, on se met dans le bain un petit peu. Je veux dire, si on veut passer aux actes, alors il ne faut pas que je vous décourage trop. En disant, c'est pas normal de ne pas passer aux actes, puisqu'on est là pour passer aux actes. Hein, justement parce qu'on réalise qu'il ne faut pas rester assis sur son banc. Il ne faut pas rester à rien faire. Il ne faut pas mettre de côté ce que le Seigneur nous demande. Parce qu'un autre prendra la charge. Un autre prendra notre place. Parce que le royaume de Dieu doit avancer. Parce que l'Église doit avancer, parce qu'il y a des âmes qui se perdent, parce qu'il y a du monde autour de nous, il y a des besoins. Et si ce n'est pas toi qui iras, quelqu'un d'autre ira. À un moment, Jean, l'apôtre Jean, va venir vers Jésus en disant « c'est pas normal Seigneur, il y en a d'autres là, ils ne font pas partie de notre groupe, ils ne font pas partie des 12 et ils baptisent. Ils baptisent au nom de Jésus ». Et ils sont même pas mandatés, ils ont même pas la carte officielle des 12. Ils font pas partie des 12 et ils baptisent. Eh, Seigneur, on va aller leur empêcher, là, et puis leur expliquer comment ça marche. Eh, il y a que ceux qui font partie de la gang de Jésus qui ont le droit de parler de Jésus, là. Il y a que ceux qui sont appointés, qui font partie des 12, qui ont le droit de baptiser. Et Jésus va répondre, non. Laissez-les faire. S'ils sont pas contre moi, ils sont avec moi. Et Jean était comme jaloux de ce que d'autres pouvaient faire du ministère. Mais ils apportaient de bonnes choses. Et c'est de Jésus dont ils parlaient. De la même manière, n'ayons pas ce genre de jalousie. Même en tant qu'Église. Soyons pas surpris s'il y a d'autres Églises qui prennent la place qu'on aurait dû prendre si on ne la prend pas. Ah oui, mais on était là avant. Ben oui, mais on était là avant, mais... C'est bien d'être là avant. Vous savez, c'est un peu comme si vous allez à la laverie, c'est ça, la buanderie? À la buanderie. Un peu comme si vous allez à la buanderie, là, puis vous avez spoté une machine, là. Je vous dis, bon, c'est ma machine, là. Je suis arrivé, il n'y avait personne. Vous vous mettez devant. Je vous dis, c'est ma machine. C'est ma machine. Wow. Vous êtes là. Et puis, il y en a d'autres qui arrivent, ils disent, la machine, ah, c'est occupé, c'est la mienne. J'étais là avant. Ah, d'accord. Bon. Puis ils attendent, puis ils disent vous ne faites pas de lessive? Vous ne mettez rien dedans, là? Non, mais c'est ma machine, j'étais là avant, là, vous permettez? Oui, mais si tu ne l'utilises pas, là, à quoi ça sert de dire que c'est ma machine si tu ne l'utilises pas? Quelqu'un d'autre qui va prendre ta place. Même si tu étais là avant. Même si ça fait des années que tu es devant ta machine, là. Vous me suivez? Et en tant qu'Église, soyons pas surpris. Des fois, on dit, mais pourquoi il y a plusieurs églises? Pourquoi il y a des choses qui se passent comme ça? Parce qu'un autre prenne la place. Il y a des âmes qui doivent être sauvées. Et si ce n'est pas nous qui évangélisons, d'autres vont le faire. Gloire à Dieu pour les autres qui le font. Mais si ce n'est pas nous qui parlons de Dieu à nos voisins, là, et à ceux qui sont à la volière, ça veut dire, des fois, on dit, quand même, ils exagèrent. Hein? Ils viennent faire de l'évangélisation juste devant nous. Il y a une autre église, là, qui est venue quasiment devant notre parking en train d'évangéliser ou devant les maisons. Mais sinon, on n'y va pas. On va les empêcher d'y aller en disant, non, c'est à nous ceux-là. Vous n'avez pas le droit de leur parler. Mais vous leur parlez? Non. Qu'un autre prenne leur place. Et ça doit nous amener à réfléchir en disant, Seigneur, qu'on ne ressemble pas à Judas. Évidemment, on ne va pas arriver, j'espère, à l'extrême de Judas et arriver là carrément à travailler pour le mal. Mais Judas, un autre, va prendre sa place. Et d'une manière générale, qu'on puisse se souvenir ce soir que personne ne prenne notre place. Mais qu'on puisse dire, Seigneur, je ferai ce à quoi tu m'as appelé. Et tu m'as confié quelque chose, je garde ma place. Je tiens mon rôle, je tiens ma fonction, je lâche pas, j'abandonne pas, je recule pas, mais j'accomplirai les œuvres que tu me demandes. Une petite parenthèse, certains vont dire, mais c'est quand même bizarre que les 11 là tirent au sort pour savoir lequel des deux. Non? Ils ont tiré à la courte paille, ils ont lancé les dés. Ils ont prié, mais ils ont tiré au sort après. Il faut savoir lequel des deux. Écoutez, ce n'est pas compliqué. On est là avant la Pentecôte. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit encore. Et ce n'est pas parce que là, ils ont tiré au sort qu'il faut que nous, on dise, bon, bah, eux, ils l'ont fait, nous, on va le faire. Bah, si vous n'avez pas reçu la puissance du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit ne dirige pas votre vie, eh bien, prie. Et dit, Seigneur, je vais tirer au sort et puis je te laisse ça entre tes mains, si tu veux. Mais la volonté de Dieu, c'est de nous parler et de nous montrer. Et c'est de nous montrer. Vous savez, quand on tire au sort, ils ont tiré au sort, le sort est tombé sur Matthias. Et ils se sont peut-être posé la même question que nous. Pourquoi lui et pas l'autre? Vous n'êtes pas posé cette question? Et qu'est-ce qui se serait passé si c'était tombé sur l'autre? Non, non, mais Dieu a eu pitié de leur faiblesse et a fait tomber le sort sur celui que Dieu lui-même a choisi. C'est tombé sur Matthias. Mais pourquoi lui et pas l'autre? Ils n'en savent rien. Mais si c'était le Saint-Esprit qui avait parlé à leur cœur, ils le sauraient. Comprenez, Dieu ne veut pas nous laisser dans l'ignorance en disant, bon, qu'est-ce que je fais? Pile, je vais à droite, face, je vais à gauche. On dit, bon, le Seigneur m'a dit d'aller là. Pourquoi? J'en sais rien, j'y vais. Dieu veut pas qu'on soit comme ça dans l'ignorance. Il veut par son Esprit Saint nous révéler, nous expliquer les Écritures. Il dit, tu vois, ce chemin-là, il est mauvais pour telle et telle raison. Si tu avais pris ce chemin, voilà ce qui se serait produit. Mais prends ce chemin-là et voilà ce qui va arriver. Et le Saint-Esprit n'est pas là simplement pour dire, tourne à gauche, tourne à droite, mais pour nous expliquer ce qui se passe et pour nous dire, va là, parce que voilà les plans, les projets de Dieu pour toi. Voilà l'avenir, voilà d'une parole prophétique, voilà la vision, voilà ce que Dieu veut nous montrer. Et oui, ils ont tiré au sort, mais notez bien que c'était là avant le jour de la Pentecôte. Et qu'après le jour de la Pentecôte, jamais ils ont tiré au sort. Mais c'est Dieu qui a conduit, qui a dirigé. Et quand il fallait choisir un homme pour telle ou telle fonction, c'est le Saint-Esprit qui les a dirigés dans leur choix. Je reviens donc et on va conclure avec ça. Et puisque le but de cette série ce soir et tous les dimanches soirs, c'est de rester très concret et de dire passons aux actes. Qu'on puisse réfléchir sur cette situation de Judas. Je vais inviter les musiciens à venir. Qu'on puisse réfléchir sur cette situation de Judas et de dire je ne veux pas lâcher. Je ne veux pas lâcher. Et je ne veux pas qu'un autre prenne ma place. Est-ce qu'on pourrait reprendre ce chant qui dit, qu'on a chanté tout à l'heure, malgré les soucis de cette vie, et qu'on puisse dire, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, malgré les soucis de cette vie. Et peut-être quand on l'a chanté tout à l'heure, quelqu'un dit, ah, c'est facile là de chanter malgré les soucis de cette vie. C'est Luc Dumont qui a dû composer ça. Lui, des soucis, il n'en a pas. Hein. Sinon, il n'aurait jamais dit ça. Hein. C'est facile de dire, Seigneur, je te louerai malgré les soucis. Oui, oui. Malgré les soucis, je ne t'abandonnerai pas. Malgré les difficultés, malgré toutes les pressions que le monde peut mettre sur nous, malgré les obstacles, malgré les problèmes. Peut-être même comme Pierre, malgré les chutes, malgré les reniements, malgré toutes les fois où on a outragé le nom de Jésus, malgré les fois où on est allé dans la direction opposée, qu'on puisse dire « Seigneur, parle à mon cœur. Je veux pas qu'un autre prenne ma place. Ce que tu as mis dans mon cœur un jour, ce que tu m'as donné un jour, je veux pas que quelqu'un puisse l'enlever. Que je veux pas laisser ma place à quelqu'un d'autre. La place que le Seigneur a réservée pour vous au ciel, ne la lâchez pas. Dites pas, c'est libre. Non, 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 non. Peut-être que, il y a un moment, c'était plus ta place. Mais le Père t'attend, comme il attend le retour du Fils prodigue. Et il dit, hé, j'ai gardé la chambre pour toi. Vous savez, un peu comme ces enfants qui font une fugue ou ces enfants qui quittent la maison et puis qui disent « Je ne reviendrai plus !» Et puis les parents qui disent « Ça, c'est ce que tu dis que tu ne reviendras plus. Mais moi, je garde la chambre pour toi. » Et puis elle reste. Puis on patiente. Puis ça reste le temps que ça reste. Et puis quand le fils prodigue rentre à la maison, le père, vous connaissez dans cette parabole de Luc 15, le père prend dans ses bras son fils et de dire « Je t'attends. » Et je t'attendais. Et j'avais même un veau de gras qui était prêt pour la fête. Et on va faire une fête parce que mon fils qui était mort est revenu à la vie. Et c'est pareil dans la présence de Dieu et dans la maison de Dieu. Il y a toujours une place pour chacun d'entre nous. Et que personne dise, moi ma place, je l'ai déjà perdue depuis longtemps. Le Seigneur te l'a gardée. Mais il faut que tu reviennes à lui. Il faut que tu marches avec lui. Et il faut que tu puisses dire ce soir, je refuse. Que quelqu'un d'autre prenne ma place, je le suivrai et je marcherai avec lui. On peut se lever à nos places ensemble, puis chanter, Seigneur, malgré les soucis, eh bien moi, je louerai ton saint nom.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.